With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Comme il m'arrive parfois ici de raconter un tout petit peu ma vie, vous savez peut-être, si vous nous suivez régulièrement, que j'ai deux enfants. Et parfois, comme tous les parents sans doute, une fois les mômes couchés, le linge plié, le lave-vaisselle mis à tourner, épuisé, affalé avec ma chère tante sur le canapé familial, il nous arrive en rigolant à moitié de nous dire que, bordel, quelle idée on a eue de se reproduire et de nous infliger tous les tracas que ça implique. Car contrairement à ce qu'une certaine presse nous vend depuis des décennies, devenir parent, ça n'est ni simple, ni évident, ni même naturel. Et accepter cet état de fait, c'est presque le plus difficile, surtout lorsqu'on est une femme et qu'on nous a inculqué l'idée qu'on ne se réalisait pleinement en tant que tel qu'en enfantant, en embrassant à fond la maternité et dans la joie, s'il vous plaît. Et si c'était un tout petit peu plus compliqué, s'il n'y avait pas une, mais mille et une façons de devenir mère ? Valérie Gauthier a creusé ces questions et son reportage réalisé par Solène Moulin forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Ça y est, j'y suis. Vous savez, cette période où les planètes s'alignent dangereusement vers la maternité. 31 ans, un mec, un boulot et des amis qui enfantent dans tous les sens. Je passe, comme beaucoup, par la case et moi. Bien sûr, c'est maintenant qu'une petite voix intérieure a décidé de se réveiller et de m'assaillir de questions. Es-tu sûre d'en vouloir ? Et ta grâce mat ? Est-ce que t'es prête à y renoncer ? Et puis j'ai lu le dernier livre de Mona Chollet, qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », qui m'a pas mal fait réfléchir. L'autrice consacre un chapitre entier au rapport des femmes à la maternité. En voici un extrait.
On peut présumer qu'au départ, il existe chez chacun un désir ou un non-désir d'enfant, quel que soit le destin futur de ce désir ou de ce non-désir, et qu'ensuite, nous l'étayons avec des arguments plus ou moins articulés. Cette disposition naît d'une alchimie complexe et mystérieuse qui déjoue tous les préjugés.
Je sais donc que mon désir est en partie construit, que quelques éléments difficilement identifiables vont faire basculer ma vie du côté de la maternité ou pas. Mais si je choisis la première option, il me reste une question. Comment savoir si je vais aimer ça ? À la fin du chapitre sur la maternité de sorcière, la question du regret d'être mère est longuement traitée. Quand j'ai terminé ce passage, j'ai fermé le bouquin et j'ai ressenti comme un immense vertige. Qu'est-ce qui décide une femme à franchir le pas ? Et comment savoir si la découverte de cet enfant s'avérera bienfaisante ou déprimante ? Pour ne plus tourner en boucle autour de ces questions, j'ai échangé avec des femmes qui sont passées par les mêmes réflexions que moi. Je suis d'abord allée rencontrer Nolwenn, qui a 32 ans. Elle est journaliste freelance, mais aussi jeune maman d'une petite catelle, qui au moment de l'enregistrement a 5 semaines.
Dans mes rêves de petite fille, à 30 ans, j'étais mariée et j'avais des enfants. Donc à 30 ans, j'étais effectivement mariée, mais j'avais pas d'enfants. Et sauf qu'après le mariage, justement, je me suis dit « Oh, bah, la prochaine étape, c'est les enfants ». Et là, j'ai fait « Non, mon Dieu, quelle horreur ». Et puis ensuite, c'est quand ma sœur a eu son premier enfant que je me suis dit « Tiens, ça a un peu fait son chemin ». Sauf que c'était trop compliqué, trop de responsabilités, trop d'angoisse, trop de peur, trop de trucs, trop de tout. Jusqu'au jour où j'ai fait un article sur ces femmes qui ne veulent pas être maman. Donc j'ai interviewé pas mal de femmes qui m'ont raconté leur expérience. Et puis une sociologue qui m'a raconté quelque chose de très intéressant, où elle disait qu'à partir du moment où la contraception est arrivée, faire un enfant, c'est devenu un choix. Un choix donc rationnel, sauf que le désir d'enfant est irrationnel. Ça vient des tripes, c'est animal. Et rationnellement, aujourd'hui, rien ne nous pousse à faire des enfants. Pourquoi on fait des enfants ? On se pourrit nos nuits, ça fait un troisième dans le couple. Et donc, il y avait des personnes que ça angoissait.
Ah, on peut peut-être préciser qu'on est en plein allaitement, ce qui justifie les petits bruits.
Voilà, les petits bruits de cochon, hein, Madame mange. Oui, donc il y avait des femmes que ça pouvait angoisser, le côté irrationnellement elles veulent un enfant, mais rationnellement elles n'en veulent pas. Je sentais bien au fond de moi, si je me questionnais sur avoir un enfant, c'est qu'au fond de moi j'en avais un peu envie. Mais il y avait tellement de choses qui me retenaient de faire un enfant, tellement de peur, tellement de... que je n'arrivais pas, en fait, à un moment donné, à faire la part des choses, à me dire qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je veux un enfant ou est-ce que j'en veux pas ? Qu'elles me disent le désir d'enfant est irrationnel. Mais faire un enfant est aujourd'hui un choix rationnel. Je dis, ah oui, donc c'est de toute façon, c'est une prise de tête. Donc c'est normal que je me prenne la tête depuis 2 ans. C'est juste qu'à un moment donné, ma raison est en contradiction avec mon intuition ou mon désir profond, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je choisis ? Je me suis dit, ben, étant quelqu'un de très intuitif et en sachant très bien que ma tête me joue régulièrement des tours, je me suis dit, si j'écoute ma tête, un jour je le regretterai.
Donc tu disais c'était principalement la peur de la responsabilité qui te faisait douter ?
Oui, je pense vraiment la responsabilité d'un enfant, c'est aussi la peur de la perte. Enfin moi, perdre mes proches, c'est quelque chose qui me terrorise. Et je me dis, si je fais un enfant, s'il lui arrive quoi que ce soit, enfin, je n'y survivrai pas. C'est plus cette angoisse-là, puis de me dire, je suis déjà suffisamment angoissée comme ça, moi, toute seule. Si en plus, je me rajoute un enfant avec toutes les angoisses que ça implique, est-ce que vraiment j'ai envie de vivre ça ? Comment est-ce que je vais gérer ça ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais en être capable aussi ? Et est-ce que je vais pas me pourrir la vie ? C'est ça aussi qui est flippant, c'est de se dire c'est l'inconnu complet, faire un enfant. Donc on sait absolument pas ce qui nous attend. Tous les parents nous disent ah, je suis crevée, c'est horrible, il m'a fait l'enfer et tout. Mais c'est magique d'avoir des enfants. Mais je comprends pas. Et en fait, ce qui, moi, était le plus difficile, c'est de me dire, oui, faire des enfants, c'est fatigant, c'est difficile, c'est angoissant, mais en même temps, c'est tellement gratifiant, t'as l'amour inconditionnel que t'éprouves pour ton enfant et que ton enfant éprouve pour toi. Et là, tu te dis, oui, mais cet amour inconditionnel-là, je le connais pas, je sais pas ce que c'est. Et moi, j'aurais bien aimé tester avant, en fait, me dire, est-ce que, du coup, ça, je fais un petit test, vous me filez un bébé en me disant que c'est le mien pendant 3 semaines, puis on voit si ça match ou pas. Sauf que c'est pas possible, forcément.
Rationalité contre irrationalité. Cette question me fait douter. Est-ce que notre envie est encore animale, comme le dit la sociologue qu'a rencontré Nolwenn, ou bien est-ce une construction sociale, comme l'explique Mona Chollet ? Sans doute un subtil mélange des deux. Pour Christine Castelin-Meunier, sociologue au CNRS et à l'EHESS, spécialisée en sociologie de la famille, de la maternité et de la paternité, la notion de choix a effectivement modifié le rapport des femmes à la maternité. Pourquoi aujourd'hui les femmes se demandent plus si elles sont sûres d'avoir envie d'un enfant ou pas ?
Ah bah parce que donc aujourd'hui c'est possible que ce soit un choix et c'est possible aussi de s'affirmer autrement que comme épouse et mère. Quand on est une femme aujourd'hui, alors qu'autrefois, quand on était une femme, il fallait être une épouse et une mère parce qu'on n'avait pas de droits et on n'existait pas si on n'était pas devenue mère. Avant le mouvement collectif des femmes des années 1970. Il y a effectivement cette peur d'avoir un enfant, peur de perdre de liberté, peur d'être obligée de partager avec un homme. Et puis sans avoir la certitude que ça se passera bien, et avec aussi cette peur d'un engagement à vie, cette possibilité d'avoir cette méfiance, de prendre de la distance par rapport à cette situation, elle est récente. Elle est récente parce que je vous dis, avant, une femme n'avait pas de droit, donc elle était obligée d'être dans le sillage d'un homme, si je puis dire, hein, et puis de s'affirmer en ayant des enfants parce que sinon elle était marginalisée, elle était exclue de la société. Hein. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une période de transition aussi, j'aurais envie de dire, parce que on est en train de sortir d'un certain nombre de stéréotypes, mais en même temps, il y a une juxtaposition de modèles qui empêche de sortir des stéréotypes. Donc on sent bien que cette période de transition, elle est aussi fébrile, dangereuse. Il y a des changements, mais en même temps, plus ça change, plus il y a des résistances au changement. Donc du coup, s'engager dans la vie d'une femme avec un enfant, c'est, c'est avoir des responsabilités économiques fortes, c'est être contrainte d'avoir une vie un peu fixe, un peu figée par toutes les responsabilités éducatives.
Je serai donc un pur produit de mon époque, déstabilisée par des messages contradictoires, des nouvelles normes, par des schémas de vie encore marginaux. Je me reconnais assez dans le discours de Nolwenn, et elle a franchi le pas. Et elle me raconte ses impressions de jeune maman.
Et alors, à partir du moment où tu as fait ce choix, qu'est-ce que tu as fait de toutes tes peurs? Elles ont disparu?
Alors, elles ont disparu sous un anxiolytique? Non, en fait, donc effectivement, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai flippé, donc j'ai pris un anxiolytique. Et les 3 premiers mois ont été horribles, pas parce que j'étais malade, mais parce que psychiquement, j'étais complètement à l'ouest. Ça a été vraiment compliqué à appréhender. Je me suis dit, bon, ok, j'avais fait le choix d'avoir un enfant et là, je suis enceinte. C'est donc complètement concret. Ok, mon Dieu, quelle horreur. Donc, je l'ai annoncé à toute ma famille en pleurant. Où ils m'ont dit, c'est une bonne nouvelle. J'en sais rien, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle du tout. Parce que je flippais complètement. J'ai quand même dit à mon mari, écoute, je me laisse la porte ouverte de l'avortement parce que je suis dans un état de... Je ne comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Alors après, on m'a dit qu'il y avait aussi les hormones et tout ça hein, qui jouaient. Et puis, ben... J'ai accouché, et puis ben là, finalement, des angoisses, il n'y en a plus tellement. Sauf de me dire, je fais mal. Est-ce que je fais bien avec ma fille? Mais finalement, toutes les angoisses que j'ai eues avant, je ne sais pas si c'est les hormones de l'allaitement qui jouent encore, mais je ne suis pas du tout angoissée, ça se passe bien, je suis juste un peu fatiguée, comme toutes les mamans.
Bon, et bien voilà, fin de l'histoire. Il suffit d'essayer et les angoisses s'envolent lorsqu'on va à la rencontre de sa progéniture.
Et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge !
Non, pas tout à fait. Et d'ailleurs, même si elle ne le mentionne pas ici, Nolwenn m'a confié qu'elle ne se considérait pas sauvée de toute angoisse maternelle. Pour elle, l'arrivée de son bébé s'est bien passée. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Je suis partie à la rencontre d'Amélie. Elle a 35 ans et 2 enfants. Elle accouche de son premier à 27 ans et arrive trop tard à la maternité pour obtenir une péridurale. L'accouchement est douloureux, elle en sort épuisée et le lien avec son bébé ne se fait pas immédiatement.
Thibaut était tout petit, il n'était pas né longtemps avant terme. On dit que c'est un bébé à terme, un bébé qui naît 10 jours avant. Mais il avait du mal à se réchauffer, donc en fait il est parti en couveuse très vite. Mais bizarrement, ça ne m'a pas du tout inquiétée. Moi, je voulais juste faire une douche, je voulais me remettre bien, me reposer, et débriefer avec ma maman sur l'accouchement, parce que ma maman était là. Et voilà, bizarrement, après le bébé, j'y ai plus trop pensé. Pendant, je pense, 1 heure. Et c'est ma mère qui, elle, s'inquiétait un petit peu, en fait, de voir que on ramenait pas le bébé, tout ça. Et bon, après, elle voulait pas m'inquiéter, donc elle m'en parlait pas. Mais c'est vrai que moi, j'étais passée à autre chose. Mais vraiment.
Et comment tu l'expliques, ça?
Avec le recul, je me dis que voilà, l'accouchement avait été quand même éprouvant. Je m'en étais sortie indemne. Thibaut avait crié quoi à l'accouchement. A priori, il n'avait pas le cordon autour du cou, tout ça. Donc en fait, j'avais pas vraiment de raison de m'inquiéter. J'estimais qu'il était entre bonnes mains, je pense, et du coup, je m'en suis pas souciée.
Mais t'avais pas envie de le rencontrer vraiment, de le voir, de le regarder sous toutes les coutures, de le pouponner, de le serrer.
C'est assez étrange, mais effectivement, à ce moment-là, non. Je sors de l'accouchement et c'est primaire, hein, en fait. Je crois que voilà, l'instinct maternel, on en parle beaucoup, mais je suis pas sûre de l'avoir eu là, comme ça. Puis d'ailleurs, je suis pas sûre que ça existe vraiment. Par contre, l'instinct de survie, il existe, quoi, clairement. Et là, c'est vraiment mon instinct animal. Je suis en vie, quoi. Je suis en vie, il est sorti, j'ai récupéré mon corps. Ça y est, quoi. J'ai plus ce petit alien dans le ventre. Je suis intacte, quoi. Je suis intacte, mon cœur, il bat, je respire. Je suis vivante, a priori, lui aussi. Donc, j'ai pas de raison de m'inquiéter. Et là, je reprends mes émotions. Il n'y a que moi, quoi, pour le moment. En même temps, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, je ne suis pas encore prête à le connaître, effectivement.
Oui, tu ne te sens pas du tout en fusion. Enfin, on a l'impression que tu parles vraiment déjà, à peine il est né, tu parles déjà de ton bébé comme un être à part entière, en fait.
Oui, c'est vrai que là, maintenant que j'y repense, c'est tout à fait ça. Je pense que je n'ai pas eu... Enfin, il n'y a pas une fusion mère-enfant, quoi, hein, entre moi et mes enfants. Et enfin, je parle de mon premier enfant. Je parle de Thibaut, qui pourtant est mon premier enfant. Et on dit que c'est vrai que le premier enfant, c'est quelque chose d'ultra émouvant. Et c'est quelque chose d'ultra important dans ma vie. Mais effectivement, mon bébé, c'est quelque chose d'à part entière, quoi. C'est pas le prolongement de moi-même, clairement pas. Enfin, voilà, le cordon a été coupé. Je l'ai pas allaité. J'avais pas envie de l'allaiter du tout. On m'a proposé la tétée d'accueil. Enfin, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. J'ai donné un petit biberon à Thibaut. Voilà, je l'ai trouvé magnifique, tout ça. Enfin, je me suis émerveillée. Mais je peux pas dire que il y avait une fusion tout de suite avec mon enfant. Et oui, je pense que je l'ai considéré dès le départ comme un petit être à part entière.
Et c'est venu, enfin, tu as fait sa connaissance et puis peu à peu, ce lien s'est créé un peu plus.
Le lien s'est créé quand même rapidement. À partir du moment où moi, j'ai repris mes esprits après l'accouchement, tout ça, je me suis douchée, voilà, je me suis calmée, on m'a ramené mon bébé. Là, je l'ai regardé, je l'ai trouvé super beau, tout ça. Je pense pas avoir pleuré de joie, quoi, en me disant « waouh, je suis devenue maman ». Mais je me suis attachée à lui quand même très, 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 très vite. Et puis, du fait que le papa n'était pas là non plus, il y a quand même eu un lien très, très, très fort qui s'est développé avec Thibaut. Et je suis vraiment devenue maman quand même au bout de quelques jours, très vite, très rapidement. Et j'ai adoré ça, ouais. J'ai vraiment adoré ça pour Thibaut. Je dis pour Thibaut, j'insiste, hein, parce que pour ma fille, donc j'ai eu un deuxième enfant, 3 ans et demi, plus tard. Donc là, je savais ce que c'était d'être maman. Et j'avais envie de l'être à nouveau. C'est avéré que c'était une petite fille. La grossesse s'est super bien passée. Pas de souci. Le terme arrivait 2 jours après la première entrée en maternelle de Thibaut. Donc ça me rendait malade. Mais voilà, donc j'accouchais. L'accouchement se passe super bien là cette fois. J'ai beaucoup plus la possibilité de recevoir l'enfant. Ouais, de mesurer ce que c'est, quoi. Et là, je pleure quand même. Là, je pleure quand Charlotte arrive. Parce que là, je trouve quand même le moment super beau. Et donc, j'ai le temps d'apprécier. Le papa est là aussi. Donc, c'est quand même différent. On vit ça à deux. C'est cool. Alors, c'est pas du tout le même bébé que le premier. Donc, je suis très surprise. C'est ça ma première réaction, je crois, pour Charlotte. Parce que je m'attendais à avoir le même bébé. Et alors, rien à voir. Charlotte, elle fait 3,7 kg. Donc, 1 kg de plus que son frère. Elle fait 52 cm ou 53. Donc, c'est un gros bébé. Elle ressemble à un sumo, même, je dirais. Hein. Elle a les cheveux dressés sur la tête. Elle n'est pas très jolie. Donc là, par contre, c'est ça que je me dis. Je me dis, waouh, Charlotte, elle n'est pas très, très jolie. Son frère était très beau. Mais Charlotte, elle a les yeux un peu explosés. Elle a les cheveux dressés sur la tête. Mais bon, je dis ça aujourd'hui de façon totalement détendue, hein, parce que c'est ce que je pense à ce moment-là. Et je sais bien que les nouveau-nés évoluent et qu'ils deviennent mignons par la suite. Mais sur le coup, je me dis pas ma fille, c'est la plus jolie, quoi. C'est pas possible. C'est pas la plus jolie, loin de là. Et avec Charlotte, après, l'attachement est beaucoup plus long. Bah parce qu'il y a déjà Thibaut et que évidemment je suis à la maternité avec Charlotte, mais je pense à Thibaut qui est à l'école et j'ai beaucoup de mal à faire le lien avec Charlotte, vraiment. Et je me dis que je vais pas réussir à l'aimer, cette petite fille, et j'en suis malade. Donc je pleure beaucoup. Je la regarde et ça me fait rien. Vraiment, ça me fait rien. Alors que Thibaut, évidemment, rapidement, je commençais à lui chanter des petites chansons à la maternité pour le calmer et tout ça. Mais Charlotte, j'y arrive pas. Je pense à son frère. Et puis, je la trouve pas jolie. C'est bête, hein. Mais c'est beaucoup plus dur, quoi. C'est pas du tout comme ça que je la voyais. Donc, j'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal. Et puis ça se fait progressivement, mais là encore, j'ai pas beaucoup de chance dans tout ça, dans la maternité, moi, d'une manière générale, puisque mon compagnon était là à l'accouchement, mais il repart quelques jours après en déplacement à nouveau. Donc du coup, la semaine, je suis toute seule avec mes deux enfants. Donc j'ai pas vraiment le temps non plus de nouer un vrai lien avec Charlotte, enfin au départ, quoi, parce que je suis fatiguée, il y a Thibaut, je suis toute seule. Elle est pas exactement comme je l'imaginais, donc ça prend un petit peu de temps.
Et tu le vis comment sur le moment, ça ? Parce que tu t'en rends compte ou là, tu analyses ça comme ça parce que tu as du recul et que tu y as réfléchi?
Sur le moment, je m'en rends compte et c'est horrible. Enfin, c'est vraiment horrible parce que la maternité, c'est censé et c'est présenté comme un merveilleux moment dans la vie d'une femme, d'une mère, un moment épanouissant, la rencontre avec son enfant, plein de bonheur, tout ça, tout ça. Et évidemment, je me rends compte que là, ce que je vis, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Et donc, je me culpabilise énormément. Enfin, je me force à faire les choses un petit peu avec Charlotte, à lui chanter des petites chansons comme je faisais à Thibaut. Ouais, être bien avec elle, quoi. Et il se trouve que Charlotte, c'était un enfant qui était très calme, une petite fille très calme, qui pleurait très, très peu. Donc, je la mets aussi facilement dans son lit. Donc, je la porte beaucoup moins que j'ai pu porter son frère, et je m'en rends compte. En même temps, c'est la facilité, donc c'est un petit cercle vicieux. Mais je me culpabilise, évidemment, de tout ça. Je suis totalement consciente de ça. Mais après, j'arrive aussi à l'exprimer assez facilement. Parce que de toute façon, j'exprime assez facilement les choses. Et j'en parle et je me rends compte qu'en fait, je suis loin d'être la seule à avoir vécu ça. Et le fait de le savoir, à un moment donné, fait que je me dis « bon, bah, ça va passer ».
Ça change des photos Instagram montrant des parents au comble du bonheur, n'est-ce pas? La suite, c'est qu'Amélie va réussir à créer ce lien avec Charlotte. Même si les jours de crise, elle se demande si tout ça vaut la peine. Peu de parents l'admettent. Le fait que la maternité surpasse toutes les contraintes qu'elle engendre est une idée sans cesse défendue. Pour finir, j'ai interrogé Émilie, une coéquipière de roller derby. Elle a 43 ans et deux enfants de 19 et 10 ans. Émilie a eu son aîné très jeune et parle plus de pulsion que de choix quand elle évoque cette première grossesse. À 31 ans, elle a un second enfant avec son conjoint actuel. Cette fois, elle explique l'avoir fait principalement parce que son mec en avait envie. J'ai commencé par lui demander si elle avait tout de même trouvé une source d'épanouissement dans cette maternité, un thème qui l'a longuement fait réagir.
Si tu parles d'épanouissement en tant que femme, non, en vrai. De joie, de satisfaction, de moments sympas, parce que je trouve que mes gamins, ils sont sympas. Donc, mais... Je dirais pas que c'est un truc qui m'épanouit. C'est ce que je suis, c'est parce que j'ai des enfants, bon voilà, ils sont là. Mais c'est pas en tant que mère que je me définis, moi, mon identité.
T'as peur, en fait, que ton statut de mère prenne le dessus sur qui tu es vraiment et que tu...
Ah mais clairement. Peur, j'ai pas du tout envie, quoi. J'ai pas envie d'être une mère, quoi. Je suis pas que ça. Et je trouve que quand t'as des gamins et que t'es une femme, eh ben, c'est la première chose... qui te définit chez les gens, quoi. Voilà. Quand moi, je rencontre des gens à mon âge hors du derby, parce qu'on ne pose pas vraiment cette question-là. En fait, on ne se pose pas ces questions-là au derby. Juste, tu viens et t'es comme t'es, et c'est hyper apaisant, je trouve. Ouais, non, mais le fait d'être mère, moi, j'ai pas envie, en fait, ça me gave. Quand je dis ça, là, tu vois, je te le dis comme ça, je le pense. Il y a des fois, je me dis, mais c'est horrible ce que je suis en train de dire, quoi. Parce que c'est pas fréquent, quand même, de rencontrer des gens qui... tu vois, tu me posais la question, est-ce que t'en as parlé à d'autres filles? Ben non, en fait, jamais, quoi. Jamais je dis ça à personne, à part moi-même, quoi. Soit il faut que tu sois une super maman, alors même si tu travailles, parce que franchement, sans déconner, bosser et s'occuper des gamins en même temps, au niveau de ce que tu peux voir à la téloche ou ce que tu peux lire dans les magazines un peu féminins, que je lis pas forcément, mais est-ce que tu peux avoir des articles comme ça ou dans les magazines de parents? Franchement, c'est hyper culpabilisant parce que tu n'y arrives jamais, quoi. Parce que tu peux pas, c'est pas possible, c'est pas la vraie vie, quoi. Je sais pas qui arrive à faire ça, mais c'est juste pas la vraie vie, quoi. Je me souviens d'une époque où on était parti habiter dans un petit bled où je connaissais pas grand monde, on venait pas de là, quoi. On a fait une petite incursion dans un petit bled. Et mon fils, il était quoi, en sixième. Et en fait, je me suis dit, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, parce qu'en me le disant, je me suis dit que c'était une connerie de faire ça, mais bon, je l'ai fait quand même. Je me suis dit, bah tiens, pour rencontrer des gens, parce que c'était vraiment paumé, je vais me mettre à l'association des parents d'élèves. Et en fait, je me suis tapé des soirées, mais chiantes à mourir dans des discussions de mère de famille, qui me saoulaient, en fait, ça m'ennuyait de parler de... les dents des gamins, les maladies des gamins, qu'est-ce que tu fais à manger, c'est pas le genre de relation que j'ai envie d'avoir. Alors, c'est pas un jugement sur les gens qui aiment bien parler de ça, en fait, c'est que juste, quand t'as des gamins et que toi tu travailles pas et que ton mec il travaille et que tu vas à l'école, et ben on te laisse là-dedans. Et moi ça me fait chier quoi, ce genre de discussion. Je me sens pas forcément mauvaise mère, mais je me force en fait des fois pour faire des trucs avec mes mômes, je me force quoi. Enfin voilà, j'ai pas forcément envie de pouponner, de faire des guizou-guizou et tout. Quand j'ai envie de le faire et quand ça se fait et que c'est bien, ouais. Mais j'ai pas envie de le faire tout le temps. Je me sentais un peu à part, en fait. Enfin, tu vois, t'as aussi peur d'être étiquetée comme étant un peu la meuf qui est un peu déconnante ou qui n'est pas forcément la bonne mère de famille. Je sais pas ce que c'est une bonne mère de famille, hein, mais tu sais, t'as une image un peu qui est calée sur... OK, t'arrives, c'est toi qui vas le récupérer. Moi, je voyais hein, l'école, 4h30, t'as 4 pères et t'as... Tout le reste, c'est soit c'est les mères, soit c'est les nourrices, soit c'est les grands-mères. Mais... Et de me retrouver là-dedans et avoir avec des discussions qui tournent que autour des gamins, il y a zéro ouverture sur autre chose, je trouve que c'est hyper enfermant, quoi. Moi, ça me faisait chier, quoi. Puis c'est pesant, j'avais envie de m'enfuir, en fait. Si tu trouves pas un équilibre, enfin, si moi, j'avais pas essayé de trouver des équilibres avec, entre ma vie enfermante de la maison... Mais pas parce que c'est la maison, mais parce que t'as ton mec et tes gamins et qu'en fait, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Enfin, je me doute parce que je lis des trucs quand même sur la place de la femme et la place de l'homme et le rôle, etc. Mais je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais dès qu'il y a un truc, on te demande à toi. Faut que tu sois, faut que tout le temps que tu sois au top. Faut que t'aies les réponses tout le temps. Faut que tu saches tout le temps ce qu'il faut faire. Faut que tu penses à tout. Faut que tu t'occupes de tout, tout, tout. Ah non, c'est trop de poids pour moi. Enfin, ça me saoule, moi. En fait, en plus, j'en parle jamais à personne parce que c'est quelque chose que tu dis pas, même avec des gens qui ont des gamins. Je sais pas, c'est quelque chose, c'est peut-être un peu honteux ou pas admis ou j'en sais rien. Enfin, j'ai pas forcément honte de ça. Mais si, des fois, je me dis, putain, mais est-ce que j'aime vraiment mes enfants? Est-ce que je suis une mauvaise mère? Ça m'arrive de me poser ces questions-là, quoi. Je sais pas.
Et même avec ton mec, il doit connaître ça de toi.
Je sais pas jusqu'à quel point je lui ai dit ou pas. Je sais pas jusqu'à quel point j'ai montré ça ou pas, en fait. Je sais même pas s'il comprendrait, en fait.
Qu'est-ce que tu aurais fait si t'avais pas eu tes enfants, à ton avis, quand t'es justement dans ce genre de questionnement à te dire, bon, bah, ça aurait été différent sans... Tu rêves de quoi? Tu projettes quoi?
Bah non, mais il faut pas faire ça parce que sinon c'est la déprime, t'imagines le truc. Genre ouais, si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais fait ça, ça, ça. Non, je fais pas ça. Non, je fais pas ça. Bah non. Bah non. Sinon, ça y est, je tombe. Je me dis bah, je pense que si j'avais pas eu de gamin, j'aurais beaucoup plus voyagé. À part ça, j'imagine pas autre chose parce que en fait. Je pense que ça sert à rien de regretter les choses parce que j'ai fait un choix un jour, j'ai eu un gamin, puis un deuxième, même si le choix n'était pas très réfléchi. Mais une fois que tu as choisi et que tu es là, si tu passes ton temps à regretter, bah, tu ne vis plus, quoi.
Est-ce que tu penses que si la maternité, c'est compliqué, c'est pas tant parce que peut-être ce n'était pas ton truc, mais c'est aussi parce que le rôle qui est mis sur les femmes est trop fort?
Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Je pense que si ce serait plus facile si la société n'était pas faite comme ça, ouais. Et puis, que ce soit en termes de représentation, mais aussi, du coup, derrière, ce qui en découle, c'est de l'organisation, quoi. On n'est pas organisé, quoi, pour que la garde, elle soit facile, que les pères, ils prennent complètement la même part que les nénettes. Bah dans le maternage, quoi, enfin, dans s'occuper des gamins et tout, quoi. Alors, il y en a quelques-uns qui font, tu vois. Puis en plus, quand tu vois un mec avec son bébé dans le porte-bébé, tout le monde s'extasie parce que le mec, il porte son bébé dans le porte-bébé. Ça m'énerve, moi. Je trouve ça juste normal. Si on n'était pas dans une société comme ça, ouais, je pense que ce serait peut-être différent à vivre une maternité.
À la suite de cet enregistrement, Émilie a beaucoup, beaucoup... beaucoup réfléchi. Elle m'envoyait des messages avec ses pensées. Quelques heures après notre rencontre, elle m'écrivait ceci. « À la réflexion, c'est ridicule ce changement de prénom. J'aurais dû dire « est-elle », tout simplement. On n'est ni bonne ni mauvaise mère. On fait comme on peut, avec ce qu'on est, le tout étant de ne pas se perdre. Pas facile. » Et Ethel, puisque c'est son vrai prénom, a tout à fait résumé ma pensée après avoir rencontré ces trois femmes. Toutes avaient pour point commun ce désir très fort de se réaliser avec et en dehors de la maternité. Avec un peu de chance, à force de montrer à leurs enfants que maman n'est pas qu'une maman, la future génération portera moins ce poids de la maternité. Et qui sait, dans 30 ans, les questions des jeunes femmes sur le fait d'avoir ou non un enfant et d'être prête ou non à vivre cette maternité seront peut-être très différentes.
Merci à Valérie Gauthier pour ce reportage réalisé par Solène Moulin. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour nous parler, il y a Facebook et Twitter. Et à lundi, pour de vrai ce coup-ci, pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.